Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, c'est parti. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde, à travers différentes rencontres, rencontres faites en France, faites à l'étranger. Avec moi, Pascal Hartel. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de te rencontrer, de découvrir un petit peu ton histoire et ton parcours. Donc là, je sais que tu es ici pour animer différents stages, différents ateliers en tant que DO. Donc on verra dans cette émission ce qu'est un DO. Mais avant de parler de ce que tu es, de ta fonction aujourd'hui, on va revenir un petit peu dans le temps, en arrière, pour que tu me présentes un peu ton parcours, ton cheminement, ce qui fait que tu t'intéresses peut-être à cette démarche introspective de l'être et le lien que tu as développé entre toi et les mondes extérieurs.
Ah ben c'est très bien, parce que je vais avoir l'impression de rajeunir. En fait, moi, ça a été vraiment un déclic. Bon, j'ai suivi différentes formations. J'avais une trentaine d'années à peu près. J'ai commencé par faire du drainage lymphatique, du drainage bioénergétique, et puis commencer des formations en énergétique. Et puis le thérapeute qui m'enseignait à l'époque était un peu submergé par ses soins. Il m'a demandé de venir lui faire des drainages, les drainages que lui ne pouvait pas faire. Puis un jour, il propose à son cabinet, d'assister aux soins avec ses patients. Et puis lors d'un soin, une fois, il a pris un bol tibétain. Et là, ça a été quelque chose de difficilement descriptible. Je pourrais le décrire comme un peu un circuit électrique à l'intérieur, avec des endroits où comme s'il y avait des lumières qui s'allument. Je me suis mis à trembler, j'avais des gros tremblements comme ça. Donc, bon, j'ai fait tout ça en silence, parce qu'il y avait le soin, donc moi je n'intervenais pas. Puis à la fin du soin, je lui ai exprimé ce que j'avais vécu, puis j'ai dit « maintenant je fais quoi de ça ?» Et il m'a répondu « Cherche, tu trouveras. »
Ça, c'est la phrase de Jésus aussi, « Cherche et tu trouveras.
Ah, » Mais
Pascal, pour bien comprendre, donc là tu me parles de soins, donc tu étais déjà sur un chemin de recherche, de quête, quête de sens, ou bien un petit peu à cette époque-là de ta vie, parce que tu n'as peut-être pas tout de suite à la naissance été en chemin et en recherche de soins, de thérapie.
Non, tout à fait. Moi, c'est lié à mon premier divorce, en fait. Et puis, après avoir passé une période très très difficile, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, ces questions m'ont amené sur ce cheminement. Et donc, suite à cette aventure du soin, là, effectivement, je me suis mis à chercher un petit peu qu'est-ce qui pouvait se passer au niveau du domaine du son. Et avec des personnes qui travaillaient aussi à l'époque avec, ils avaient 2-3 instruments de musique. Et puis là, j'ai commencé à développer quelque chose. À cette époque-là, on devait être une dizaine en France à pratiquer ce qu'on appelle maintenant le massage sonore ou le voyage sonore ou le bain sonore. Enfin, ça prend des noms différents en fonction des personnes qui animent les choses, quoi. Quand j'ai commencé ça, en fait, je faisais du chamanisme sans savoir que c'était du chamanisme. Parce que j'ai développé une certaine façon d'œuvrer avec ces instruments, avec les éléments, avec des choses comme ça. C'est bien plus tard que j'ai compris en fait que je faisais du chamanisme à cette époque-là.
Mais à ce moment-là, tu reçois, donc hein, tu n'enseignes pas, tu donnes pas. Quand tu parles de bol tibétain, quand tu me parles de sonothérapie, c'est quelque chose que tu reçois.
Alors, il y a eu les deux. Il y avait les enseignements que j'avais au niveau du Kototama, qui était un yoga du son avec la voix, accompagné de quelques instruments. Et c'est ensuite, j'ai acquis des instruments. Et c'est là où j'ai mis en place ce massage sonore que j'ai commencé à délivrer aux gens. Voilà.
Oh,
Ok, avant de... Ok, je comprends mieux l'itinéraire, mais je reviens quand même sur cette notion de divorce. Hein. Tu parles de ce divorce qui t'a mis en chemin. Souvent dans la vie, c'est des moments forts hein, ou des moments durs hein, qui nous permettent de nous faire une sorte de choc intérieur et de nous mettre en mouvement. Est-ce que tu peux parler de ça hein, peut-être, parce que je me rends compte, ou peut-être que même toi, dans les gens que tu rencontres, souvent, des gens viennent à toi ou viennent dans ce genre d'événement suite à une rupture, suite à un choc.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, avec à l'intérieur de soi un sentiment de mal-être et puis de chercher une voie pour pouvoir sortir de ce mal-être et certaines prises de conscience aussi, en disant, ben voilà, ce que je vis, non, c'est pas, ça correspond pas à ce que je suis vraiment à l'intérieur, tout en sachant pas forcément qui on est vraiment à l'intérieur. Mais ça enclenche un processus de recherche, un cheminement. Et ce cheminement, on se rend compte, avec le temps qui passe, qu'il ne s'arrête jamais, en fait.
Tu parles de sonothérapie hein, comme de chamanisme. Hein. Tu disais, hein, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du chamanisme que je faisais, que je recevais. Toi, est-ce que tu peux définir, déjà, bon, c'est bien aussi de mettre un peu une définition sur les termes, parce qu'aujourd'hui, le mot chamanisme, on l'entend à toutes les sauces. Est-ce que tu peux revenir sur le chaman, pour toi, le chamanisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ?
Pour bien clarifier les choses, le chaman, chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chaman chez nous, dans notre tradition celte, il n'y a pas de chaman. Les chamans, ils sont en Mongolie, ils viennent des pays tout va, etc. Il y a un amalgame qui a été fait, et puis c'est un terme qui est devenu en fait un terme générique. On parlerait plutôt d'homme médecine, voilà. Chez les Amérindiens, c'est des hommes médecine. En Amérique du Sud, c'est des curanderos. En Afrique, il y a des griots. Enfin, bon, voilà. Il y a des terminologies qui sont différentes. Et on a fait un amalgame avec ce mot chaman. Et c'est quelque chose que d'ailleurs, on essaye, nous, dans notre cercle de déliter de plus en plus. Parce qu'on est passé du festival du chamanisme à festival des traditions ancestrales dites chamaniques. Parce que voilà, il y a trop d'amalgames qui sont faites. Et puis au jour d'aujourd'hui, les chamans, ça pousse dans tous les coins, quoi. Alors que c'est pas vraiment ça. Alors pour revenir, on va garder ce terme générique du chamanisme. Qu'est-ce que le chamanisme ? C'est tout simplement une reconnexion à soi et à la nature. En fait, c'est de retrouver ce lien sacré du vivant que l'on peut trouver partout dans la nature, à travers tous les éléments, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette connexion qui existe dans pas mal de peuples racines ou dans peuples premiers, hein, c'est vrai que l'homme moderne a eu... au nom du progrès, au nom du développement économique, c'est complètement déconnecté. On parle aujourd'hui de vie complètement hors sol, on le voit bien. On a réussi à bétonner la terre sous nos pieds pour se déconnecter complètement de cette réalité du vivant. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une forme d'engouement. Hein, on se rend bien compte qu'on cherche un sens à sa vie. Et souvent, on a ce besoin de reconnexion à l'humain, à soi, à la nature, à l'environnement. Et c'est peut-être pour ça aussi que le mot chaman aujourd'hui est tellement utilisé et employé, parce que les gens ont besoin de se remettre en mouvement et chercher du sens.
Ah ouais, oui, complètement. C'est même nécessaire, parce que sinon, nos modes de vie courent à leur perte, complètement. Les gens sont complètement coupés de leurs racines, en fait. Je parlais tout à l'heure de choses qui étaient bétonnées, c'est tout à fait ça, quoi. Alors, ici, dans la région, les gens ont la chance de pouvoir être à la campagne, donc les choses sont différentes, mais dans toutes ces frères et sœurs qui habitent en ville, où là, effectivement, le contact avec la nature, il est pratiquement inexistant. Ils se lèvent le matin, ils foncent dans leur mode de transport pour aller bosser, ils rentrent le soir chez eux, ben voilà, ils sont tellement fatigués que là, le week-end, ils le passent à faire leurs courses et puis régler les choses de la vie quotidienne. Et en fait, ils sont complètement sortis de ce cycle de la nature. Et effectivement, on retrouve maintenant un réel engouement pour tout ce qui va amener les gens à se reconnecter à la nature. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à sa propre nature.
Et donc, pour toi, c'est passé par le son, par la vibration ?
Voilà. Pour moi, c'est passé par la vibration du son. Pour d'autres, ça va être le toucher. Pour d'autres, ça va être autre chose. Pour moi, c'est passé par là. Ça a été vraiment ce qui a pu permettre, en fait, d'avoir cet éveil intérieur.
Yeah.
Aujourd'hui, je te rencontre donc sur ce festival, tout vêtu de blanc. Est-ce que tu peux me parler de cette partie-là de ton histoire? Parce que là, on parle de bain sonore, de son, de sonothérapie, pour aujourd'hui te voir tout en blanc avec un triskel autour du cou.
Voilà. Alors, quand je disais tout à l'heure que je faisais du chamanisme sans le savoir, c'est que bah, voilà, mon cheminement m'a emmené dans un premier temps à rencontrer un chaman québécois avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et puis, dans ce cheminement, j'ai été amené à rencontrer Patrick Daquet, qui donne les initiations traditionnelles des trois cercles celtiques. Donc j'ai suivi cette initiation. Suite à cette initiation, eh bien, effectivement, j'ai continué mon cheminement. Donc, à la fin de l'initiation, on devient ce qu'on appelle dans notre tradition un déo. Déo, ça vient de derve, du vieux breton derve, qui veut dire le chêne, l'homme de la forêt. Non pas en opposition, mais voilà, il y a différentes branches dans la culture celtique. Il y a la branche du druidisme, où là, il y a une hiérarchie, c'est très étagé, enfin voilà, c'est un petit peu un système pyramidal. Alors que dans la tradition des déos, il n'y a pas. Voilà, on est vraiment dans le cercle, dans le clan. Donc voilà, on progresse comme cela. Et puis bah, voilà, il y a des déos qui sortent de cette initiation et qui continuent leur cheminement dans leur vie de tout le temps. Moi, j'ai choisi d'accompagner d'autres sur leur chemin pour qu'ils puissent aussi trouver qui ils sont. Alors, dans notre tradition, nous sommes issus de ce qu'on appelle la tradition de la voie blanche. Et les déos, c'est ce qu'on appelle la voie du pèlerin. Quand on navigue un petit peu dans le monde du développement personnel, du bien-être, du retour à soi, on entend souvent parler de ce qu'on appelle les guerriers de lumière. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas envie de combattre. Moi, je suis plutôt un pèlerin. C'est-à-dire que moi, je vais pas aller lutter contre la guerre, mais je vais aller œuvrer pour la paix. La différence, elle est là.
Qu'est-ce que ça veut dire être chaman aujourd'hui au XXIe siècle? Comment est-ce que tu concilies ta vie de chaman, de guérisseur, avec ta vie du quotidien? Ce qu'on vit, on parlait avant de béton, hein, pour reprendre cette allégorie-là, hein, de vie hors sol. Donc là, on fait quelque part un peu de l'entre-soi sur un festival comme celui-là, où c'est réconfortant de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Mais quand on se retrouve plongé dans le monde extérieur, j'ai envie de dire, hein, dans le monde urbain ou dans la réalité du quotidien, comment est-ce que tu concilies, on parle de sagesse ancestrale, avec la vie moderne?
Bien, tout simplement, dans mes choix personnels, parce que ce n'est pas le cas de tous les déos, dans mon choix, c'est que moi je me retire des villes, par exemple. C'est aussi des choix de vie. Le chamanisme, ce n'est pas forcément une technique, où, voilà, c'est tout un ensemble de choses, tout un concept de vie, de valeurs, qui sont des valeurs traditionnelles. Et chacun choisit, et il en faut aussi dans les villes, mais chacun fait son choix. Quand j'expliquais tout à l'heure la terminologie du mot derve, le chêne, l'homme de la forêt, voilà, c'est là où je me sens vibré, etc. Donc les gens des villes, je les fais venir dans la forêt.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'olfactothérapie.
Ah, l'olfactothérapie. C'est vrai que bah, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur d'une méthode qui s'appelle l'olfactothérapie, où on travaille, là, on œuvre avec des huiles essentielles. Et on travaille avec l'odeur et la vibration des huiles essentielles pour aller rechercher la source et la racine des traumatismes et des émotions bloquées. Et là, c'est une méthode qui est pareille aussi, assez bluffante, quoi. Donc j'ai suivi ce cursus de formation, et puis voilà, je peux aussi donner des soins avec cette technique-là.
Tu parles d'émotions bloquées, on entend des émotions qui sont en train de se débloquer juste à côté dans le micro, donc on va parler de cette notion de blocage émotionnel et d'émotion, de libération émotionnelle, qui était un petit peu le thème du stage que tu animais juste avant. Et qu'est-ce que tu entends par émotion et libérer des émotions ?
Eh bien, par exemple, ça peut. Il y a des tas de choses qui peuvent provoquer des émotions bloquées. Là, on ne va pas faire une énumération, mais on peut prendre un exemple. Un enfant à qui on va, par exemple, tout le temps dire non. Puis on ne va pas lui expliquer pourquoi on lui dit non. Il va avoir le sentiment que tout ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc, il va intégrer ça à l'intérieur, en mémoire dans ses cellules, et puis il grandit avec ce mode de fonctionnement. Et puis la vie est tellement bien faite qu'elle va toujours revenir en boucle sur ce genre de choses. Et tant que la personne n'a pas pris conscience de comment elle fonctionne, elle va continuer à fonctionner comme ça, et à alimenter en fait ce qu'on appelle cette blessure primordiale, qui va grossir, 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 grossir. C'est un petit peu comme si on remettait de la vapeur dans une cocotte minute, et puis au bout d'un moment, quand il y a trop de vapeur, il faut que ça sorte par une soupape. Ces émotions bloquées, si elles restent bloquées à l'intérieur, elles peuvent aller jusqu'à déclencher des pathologies. Donc, il y a des techniques différentes, des techniques ou des rituels ou des cérémonies qui permettent justement d'aller libérer en fait ces émotions qui sont enfouies à l'intérieur.
Comment est-ce qu'on sait si on parlait peut-être à celui qui t'écoute, qui va se poser la question de est-ce que moi aussi j'ai des émotions cachées, refoulées en moi? Comment est-ce qu'on fait pour le savoir et comment est-ce qu'on fait pour les libérer du coup?
Alors ça demande de se regarder fonctionner. Quand on regarde par exemple des gens qui se mettent facilement en colère, c'est que là il y a quelque chose qui est derrière. En général, derrière une colère, il y a toujours une peur. Donc, qu'est-ce qui va avoir provoqué, en fait, le fait que les gens se mettent tout le temps en colère? Et ça s'auto-nourrit, parce que la colère, si on ne va pas rechercher la source et nettoyer la source de ça, ça s'auto-nourrit. Quelqu'un qui se met en colère, il va se mettre en colère, puis régulièrement, il va se mettre en colère, et puis ça s'auto-nourrit. Et à partir du moment où on prend conscience que, c'est vrai que je suis tout le temps en colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a différentes méthodes, il y a des gens qui vont aller voir un psy, il y a des gens qui vont aller voir un thérapeute, il y a des gens qui vont aller voir un chaman, on a des tas d'outils maintenant, dont ces rituels qu'on peut entendre derrière là, qui sont des rituels traditionnels ancestrales, qui sont pratiqués depuis bien avant qu'on découvre tout ce qui est scientifiquement prouvé maintenant, et ça fonctionnait. Le rituel que j'animais avant, il est issu d'une tribu qui vivait sans jamais aucun conflit, sans jamais aucune querelle, parce que tous les jours, ils pratiquaient ce rituel pendant 2 heures. Donc là, je ne l'ai fait pas pratiquer pendant 2 heures à des gens qui viennent sur le festival, peut-être pour la première fois, etc. Ce serait trop fort pour eux. Mais déjà là, ils l'ont pratiqué pendant 3 quarts d'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont libérées chez certains.
Sous quelle forme on entendait des cris et des hurlements?
Alors, sous quelle forme? Ça peut être des pleurs, ça peut être des cris, des hurlements, des rires, simplement des sensations corporelles, le corps qui va bouger tout seul. Il y a différentes façons de libérer les choses. Il y a des gens, des fois, ils peuvent se mettre à transpirer abondamment. Alors que, des jours comme aujourd'hui, il ne fait pas très très chaud.
Quand on parle d'émotion, tu me parlais de la colère, mais être en colère, c'est déjà libérer une émotion?
Oui, mais qu'est-ce qui va avoir entraîné le fait de se mettre en colère? Si on se met en colère, bon, une fois de temps en temps, comme ça, bon, ça peut arriver, et c'est sain. Mais il y a des gens, ils sont en colère permanente. En général, quand même, c'est quand même beaucoup lié à des peurs. À des peurs ou à ce qu'on appelle des traumatismes enfouis.
Pascal, pour terminer l'émission, j'aimerais que tu me partages ou que tu nous partages peut-être une sagesse, quelque chose qui pour toi est inspirant ou un mot ou une phrase que tu aimerais pouvoir poser là dans ce micro pour celui qui t'écoute.
Alors, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est la magie de la vie. Et que la vie est là pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Et que ce qu'on ne comprend pas par la sagesse, la vie va nous le faire comprendre par la douleur.
Ou par l'expérience.
Par l'expérience, oui, mais l'expérience, elle peut être une expérience de sagesse. Et effectivement, amener à un cheminement de compréhension. Ça va nous être présenté une fois, deux fois, trois fois. Mais si on ne comprend toujours pas, eh bien, la vie va nous l'amener sous une autre forme, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ce qu'on ne comprend pas par la sagesse, on va le comprendre par la douleur.
Jusqu'à ce qu'on puisse le libérer.
Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça.
Merci, Pascal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.